Bonjour Geneviève Forasso.
Bonjour.
Il n'y aura pas de zigzag ou de godille dans la politique du gouvernement, c'est ce qu'a dit le président de la République hier dans un entretien au journal Le Monde. Vous l'avez lu cet entretien, Geneviève Forasso, il vous a rassuré?
Oui, mais il a complètement confirmé la politique et la stratégie du président de la République et tout le gouvernement. Effectivement, je crois qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui en Europe, globalement, confiance dans nos atouts. Et c'est la ministre de la Recherche qui parle. Et cet été est un été qui a prouvé qu'on avait de nombreux atouts dans le domaine de la recherche, donc dans la projection vers l'avenir. Donc il faut reprendre confiance globalement. Et la confiance, ça veut dire aussi la constance dans les engagements. Tous les acteurs du milieu économique, mais aussi du milieu de la recherche, mais aussi du milieu de tous les secteurs d'activité vous diront que rien n'est pire que de ne pas savoir, ne pas connaître les décisions ou les orientations qui vont être décidées dans les années, dans les mois, dans les années qui viennent.
Aujourd'hui, il y a 8 personnes sur 10 en France qui ne font pas confiance au gouvernement pour rétablir la situation économique. Donc vous dites confiance, mais elle n'est pas partagée par tous, visiblement.
Je dis confiance et constance, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas expliquer les choses et davantage les expliquer. Et vous remarquerez que le président de la République s'exprime davantage et plus souvent qu'il ne le faisait jusqu'à présent. Et je crois que c'était tout à fait utile. Donc cette interview extrêmement détaillée, extrêmement précise, permet de remettre en cohérence l'ensemble de la politique que nous menons.
Circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme ça que la gauche du PS résume les propos de François Hollande. C'est pas tout à fait la même analyse que la vôtre.
La gauche du PS, c'est quoi la gauche du PS?
La gauche du PS, ce sont des courants qui font partie du Parti Socialiste et qui seront à La Rochelle et qui se sont fait entendre ces derniers mois. Les frondeurs, notamment, sont des députés socialistes. Ils sont une centaine tout de même.
On n'a pas vu une centaine dans les votes.
Ils
ont
signé des tribunes.
Dans les votes qui se sont exprimés, ce que l'on a vu, c'est des petites dizaines. Hein. On est en dessous de 50 et le projet de loi rectificatif a été voté avec une large majorité. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'on gagnera ensemble où on perdra ensemble. Mais quand je dis on, c'est pas le Parti Socialiste, c'est la France. C'est le projet que l'on a de réforme structurelle, de remise en mouvement, avec un pays qui était dans un état extrêmement dégradé. 750 000 emplois industriels, l'économie, l'industrie, on la redresse pas comme ça, aussi facilement. Une dette qui a doublé dans les deux derniers quinquennats, on ne retrouve pas des comptes publics sains aussi facilement que cela. Donc ça réclame du temps. Je crois que vous parliez du manque de confiance des Français, moi je parlerais plutôt d'une impatience. Et c'est pour ça que le président de la République a eu raison de dire fermement qu'il fallait accélérer les choses. Je crois que c'est un message à retenir de son interview, qui encore une fois remettait en cohérence l'ensemble de la politique, c'est bien ça, c'est l'accélération. On n'a pas le temps. Ailleurs, les pays émergents bougent, le monde bouge, l'Europe est un peu à la traîne et il faut absolument remettre en mouvement l'Europe et au sein de l'Europe, la France, d'où aussi l'action à mener en Europe avec les 300 milliards d'euros d'investissement public, d'investissement de l'Europe dans des grands projets structurels et que porte Jean-Claude Juncker, mais et qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Il ne s'agit pas d'avoir des procédures qui prennent encore beaucoup de temps. Il faut, je crois, être pragmatique et être extrêmement opérationnel.
Parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, il y a la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA. C'est une prestation unique à venir, dont les contours sont encore flous pour l'instant. Est-ce que vous savez, Geneviève Forasso, si ce nouveau dispositif va s'appliquer aussi aux moins de 25 ans?
Vous savez, moi j'ai été élue locale. J'ai vu à quel point les dispositions de reprise de l'emploi, de retour à l'emploi pour les personnes qui bénéficiaient qui étaient attributaires, parce que bénéficier, c'est un terme qui n'est pas très adapté, mais les personnes qui étaient allocataires des minima sociaux, à quel point le retour à l'emploi pouvait les désavantager. Donc c'est une disposition qui est extrêmement utile. Pour les 18-25 ans, il y a d'autres dispositifs qui sont spécifiques et qui ciblent les 18-25 ans, puisque vous savez que en Europe, comme en France, ou en France comme en Europe, ce sont les jeunes qui sont et les seniors qui sont le plus touchés par le chômage, et 22% de jeunes au chômage. Moi, ça me touche en tant que secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et quand on sait qu'un jeune diplômé a 4,5 fois de chance de plus qu'un jeune non diplômé d'obtenir un emploi, on voit bien l'enjeu de l'enseignement supérieur.
Justement, la FAGE, la deuxième organisation étudiante, a poussé un cri d'alarme sur le sujet. Les coûts augmentent de toutes parts pour les étudiants, c'est ce que dit la FAGE. Vous avez annoncé avec Benoît Hamon une revalorisation des bourses étudiantes, 13 millions d'euros cette année. La FAGE dit que ça ne suffit pas.
La FAGE dit pas tout à fait, ne dit pas tout à fait ça. L'inflation est à 0,5%. Mmh. Donc,
Et le coût de la rentrée, c'est plus 2%. Donc, c'est près de 4 fois.
C'est plus
l'inflation.
2% selon une évaluation qui est celle d'une organisation étudiante qui n'est pas la FAGE d'ailleurs. Mais moi, je regarde l'inflation, pas un panier un peu fictif d'ailleurs dont on ne connaît pas bien la composition. Je regarde l'inflation. L'inflation est à 0,5%. Mmh. Et nous avions obtenu un arbitrage favorable, dérogatoire, blocage des prestations sociales, de revalorisation dès le mois de juillet de 0,7% d'ensemble des bourses. Mais en plus, nous investissons 100 millions d'euros dans cette rentrée pour augmenter les aides sociales, enfin les bourses sur critères sociaux pour les étudiants qui en ont le plus besoin. Ça va viser 77 500 étudiants qui sont dans le bas de la classe moyenne et qui que Laurent Wauquiez avait décidé de nommer des boursiers, mais qui en réalité ne payaient pas dans l'inscription, ne payaient pas les droits de la sécurité sociale, mais en revanche ne percevait rien. Ça va être 77 500 étudiants après les 55 000 de l'an dernier, donc en tout 135 000 étudiants qui pour la première fois vont toucher 1 000 euros par an. Donc ça va nous permettre d'aider ceux qui aujourd'hui sont prennent le plus de risques pour mettre en péril leurs études parce que ils ont ce qu'on appelle des petits boulots, mais avec une amplitude horaire qui peut compromettre leurs études.
Mais pourquoi parle-t-on d'une précarité grandissante chez les étudiants? Pourquoi le prix de la rentrée augmente-t-il de chaque manière, de cette manière chaque année?
Chaque année, on a la même annonce sur la précarité croissante des étudiants, oui. Vous le remarquerez.
Oui, donc ce que vous dites, c'est que c'est faux?
Non, je ne dis pas que c'est faux, mais quand je regarde certains chiffres, par exemple 30% d'étudiants qui travailleraient à temps plein, moi je regarde les chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante qui disent que 13% des étudiants travaillent trop, c'est-à-dire travaillent entre un mi-temps et un temps plein. 13%, ce sont ces 13% d'étudiants qu'il nous faut aider. Avoir une activité en parallèle quand on est un petit boulot, de préférence dans une bibliothèque ou dans un endroit qui a une relation avec le travail d'étudiant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais travailler plus d'un mi-temps, là on compromet sérieusement les études. Donc c'est bien ce chiffre de 13% qu'il faut regarder. Il n'est pas en augmentation, il est même plutôt en léger recul. Mais pour autant, il faut s'y intéresser. Nous avons investi 458 millions d'euros pour les aides étudiantes en 3 ans. Ça ne s'était jamais fait et le précédent président de l'UNEF avait parlé d'actes historiques. Donc je ne dis pas que c'est forcément suffisant, mais nous sommes sur une tendance quand même qui à l'aide aux étudiants et c'est une priorité.
Vous êtes aussi secrétaire d'État à la recherche, Geneviève Furasso. Tout à l'heure, le satellite qui porte le dispositif Galileo sera enfin mis en orbite, en tout cas si le lancement se déroule bien à Kourou en Guyane. Qu'est-ce que ça représente pour l'Union européenne ce lancement?
Bah, ça représente une initiative européenne qu'on aimerait voir se multiplier dans beaucoup de secteurs. Parce que face à la concurrence du GPS américain, vous savez, pour toutes les données stratégiques qui sont fournies par le GPS, c'est dû au satellite. Hein. Nous dépendons des États-Unis. Quand on dépend d'une grande puissance, quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'on a, on est en seconde main. On n'a pas la maîtrise. Donc ça veut dire qu'il y a aussi certaines informations stratégiques qui peuvent ne pas être disponibles. Donc j'allais dire, pour une fois que l'Europe s'est prise en main, et dans le domaine de l'espace, elle s'est prise en main depuis longtemps, notamment grâce aux initiatives prises par un de mes prédécesseurs, Hubert Curien, il y a une véritable Europe de l'espace, avec une agence spatiale européenne, mais aussi des initiatives de l'Union européenne. Et ça fait partie des initiatives de l'Union européenne de se battre, et en toute loyauté, et d'avoir un outil qui soit un outil compétiteur du GPS. Donc c'est une excellente initiative. C'est vrai que ça a pris un peu de temps, c'est pas du fait de la France. Hein.
Il y a eu aussi des dérapages budgétaires.
Non, surtout le Royaume-Uni et les Pays-Bas étaient très réticents. On pensait que c'était pas gênant de dépendre d'un outil américain. Nous avons obtenu, la France en particulier, a beaucoup plaidé en faveur d'un outil européen parce que c'est stratégique. Ça donne des informations sur le climat, sur l'agriculture, sur l'état de pollution, des données stratégiques aussi dans le domaine
pour les
militaire,
services de
pour la défense. Donc c'est extrêmement important. Donc félicitons-nous, même s'il y a eu un peu de retard. Il n'y a pas eu un dérapage si important que ça pour tous les grands projets. Les coûts sont toujours minorés au départ, mais c'est un beau projet et ça va marcher.
Merci beaucoup, Geneviève Furasso.